Aristote, Métaphysique, livre 1, chapitre 7. Tous ceux qui supposent que le tout est un, qui n'admettent qu'un seul principe, la matière, qui font de ce principe une nature corporelle et étendue, tombent évidemment dans une foule d'erreurs, car ils ne donnent que les éléments des corps, non ceux des êtres incorporels. Et cependant, il y a des êtres incorporels. Et puis, quoiqu'ils veuillent expliquer les causes de la production et de la destruction et construire un système embrassant toute la nature, ils suppriment la cause du mouvement. Une autre faute, c'est de ne donner pour cause dans aucun cas ni l'essence, ni la forme. C'est encore d'accepter sans examen suffisant, comme principe des êtres, un corps simple quelconque, la terre exceptée toutefois. C'est de ne point réfléchir sur cette production ou ce changement dont les éléments sont les causes. C'est de ne point déterminer comment s'opère la production mutuelle des éléments. Je prends pour exemple le feu, l'eau, la terre, l'air. Ces éléments proviennent les uns des autres, ceux-là par voie de réunion, ceux-ci par voie de séparation. Cette distinction importe beaucoup pour la question de l'antériorité et de la postériorité des éléments. Sous le point de vue de la réunion, l'élément fondamental de toute chose paraît être celui duquel, considéré comme principe, la terre se forme par voie d'agrégation. Et cet élément devra être le plus ténu, le plus subtil des corps. Ceux qui admettent le feu comme principe se conforment, eux surtout, à cette pensée. Tous les autres philosophes reconnaissent d'eux-mêmes que tel doit être l'élément des corps. Aussi, aucun des philosophes postérieurs qui admirent un élément unique ne regarda la terre comme principe, évidemment à cause de la grandeur de ses parties. Tandis que chacun des autres éléments a été adopté comme principe par quelqu'un d'entre eux. Les uns disent que c'est le feu, les autres l'eau, les autres l'air, qui est le principe des choses. Mais pourquoi donc n'admettent-ils pas aussi, comme la plupart des hommes, que c'est la terre? Car on dit généralement que la terre est tout. Hésiode lui-même dit que la terre est le plus ancien de tous les corps, tant est vieille et populaire cette opinion. Sous ce point de vue, ni ceux qui admettent un principe autre que le feu, ni ceux qui font l'élément premier plus dense que l'air et plus subtil que l'eau, ne sauraient donc être dans le vrai. Mais si ce qui est postérieur sous le rapport de la naissance est antérieur par sa nature, et tout composé, tout mélange est postérieur par la naissance, ce sera tout le contraire. L'eau sera antérieure à l'air, la terre à l'eau. Bornons-nous à ces remarques au sujet des philosophes qui n'ont admis qu'un seul principe matériel. Mêmes observations relativement à ceux qui posent un plus grand nombre de principes. Empédocle, par exemple, qui reconnaît quatre corps élémentaires. Tout ce que nous venons de dire s'applique à ces systèmes. Voici qui est particulier à Empédocle. Il nous montre les éléments naissant les uns des autres, de telle sorte que le feu et la terre ne restent pas toujours le même corps. Ce point a été traité par nous dans la physique, ainsi que la question de savoir s'il faut admettre une ou deux causes du mouvement. Et notre avis est que l'opinion d'Empédocle n'est ni tout à fait juste, ni tout à fait déraisonnable. Toutefois, ceux qui adoptent ces doctrines doivent nécessairement rejeter tout passage d'un état à un autre. Car l'humide ne viendrait pas du chaud, ni le chaud de l'humide. Quel serait en effet le sujet qui subirait ces modifications contraires? Quelle serait la nature unique qui deviendrait eau et feu? C'est ce qu'Empédocle ne dit pas. On peut penser qu'Anaxagore admet deux éléments, et cela d'après des raisons qu'il n'a pas lui-même articulées, il est vrai, mais auxquelles il se fût rendu si on les lui eût présentées. Car, bien qu'en somme il soit absurde de dire qu'au commencement tout était mêlé, parce qu'il faut qu'avant le mélange, il y ait eu d'abord séparation, parce qu'il n'est point naturel qu'un élément quelconque se mêle à un élément quelconque. Enfin, parce que dans la supposition même du mélange primitif, les modifications, les accidents se sépareraient des substances, les mêmes choses étant également sujettes et à mélange et à séparation. Cependant, si l'on va aux conséquences, si l'on articule ce qu'il veut dire, on trouvera, je n'en doute pas, que sa pensée ne manque ni de sens ni d'originalité. En effet, lorsque rien n'était séparé, il était évident qu'on ne pouvait rien affirmer de vrai de la substance primitive. J'entends par là qu'elle n'était ni blanche, ni noire, ni grise, ni d'aucune autre couleur. Elle était nécessairement incolore. Sinon, elle aurait eu quelqu'une de ses couleurs. Elle n'avait point non plus de saveur par la même raison, ni aucune autre propriété de ce genre. Elle ne pouvait avoir ni qualité ni quantité. Elle n'avait rien de déterminé, sans quoi il y eut en elle quelqu'une des formes particulières de l'être, chose impossible lorsque tout est mélangé, et qui suppose déjà une séparation. Or, tout est mélangé, suivant Anaxagore, excepté l'intelligence. L'intelligence seule est pure et sans mélange. Il résulte de là qu'il admet pour principe d'abord l'unité, car c'est là ce qui est pur et sans mélange, puis un autre élément, l'indéterminé, avant toute détermination quelconque, avant qu'il ait reçu quelque forme. Ce système manque, il est vrai, de clarté et de précision. Cependant, il y a au fond de la pensée d'Anaxagore quelque chose qui se rapproche des doctrines postérieures et surtout de celles des philosophes de nos jours. Les seules spéculations familières aux philosophes dont nous avons parlé portent sur la production, la destruction et le mouvement. Car les principes et les causes, objets de leurs recherches, sont à peu près uniquement ceux de la substance sensible. Mais ceux qui étendent leur spéculation à tous les êtres, qui admettent d'un côté des êtres sensibles, de l'autre des êtres non sensibles, étudient évidemment ces deux espèces d'êtres. Il sera donc convenable de s'arrêter plus longtemps sur leur doctrine et d'examiner ce qu'ils disent de bon ou mauvais qui se rapporte à notre sujet. Ceux qu'on appelle pythagoriciens emploient les principes et les éléments d'une manière plus étrange encore que les physiciens. Et cela vient de ce qu'ils prennent les principes en dehors des êtres sensibles. Les êtres mathématiques sont privés de mouvement, à l'exception de ceux dont traite l'astronomie. Or, toutes leurs recherches, tout leur système porte sur les êtres physiques. Ils expliquent la production du ciel, et ils observent ce qui se passe dans ces diverses parties, ces révolutions, ces mouvements. C'est à cela qu'ils dépensent leurs principes et leurs causes, comme s'ils accordaient avec les physiciens à reconnaître que l'être se réduit à ce qui est sensible, à ce qu'embrasse notre ciel. Mais leurs causes et leurs principes suffisent, selon nous, pour s'élever à la conception d'être hors de la portée des sens. Elles s'y appliqueraient beaucoup mieux qu'aux considérations physiques. Ensuite, comment aura lieu le mouvement s'il n'y a pas d'autre substance que le fini et l'infini, le pair et l'impair? Ils n'en disent rien. Ils n'expliquent pas non plus comment peuvent s'opérer sans mouvement et sans changement la production et la destruction, ou les révolutions des corps célestes. Supposons d'ailleurs qu'on leur accorde ou qu'il soit démontré que l'étendue se tire de leurs principes. Restera encore à expliquer pourquoi certains corps sont légers, pourquoi d'autres sont pesants, car ils le déclarent eux-mêmes, et c'est là leur prétention. Tout ce qu'ils disent des corps mathématiques, ils le disent des corps sensibles. Aussi n'ont-ils jamais parlé du feu, de la terre, des autres corps analogues, comme n'ayant rien de particulier à dire des êtres sensibles. De plus, comment concevoir que les modifications du nombre et le nombre soient cause de ce qui est, de ce qui se produit dans le ciel de tout temps et aujourd'hui, et qu'il n'y ait néanmoins aucun autre nombre en dehors de ce nombre qui constitue le monde? En effet, lorsqu'ils ont placé dans telle partie de l'univers l'opinion et la propos, et un peu plus haut ou plus bas l'injustice, la séparation ou le mélange, disant pour prouver qu'il en est ainsi, que chacune de ces choses est un nombre, et que déjà se trouve dans cette même partie de l'univers une multitude de grandeurs, puisque chaque point particulier de l'espace est occupé par quelque grandeur. Le nombre qui constitue le ciel est-il alors le même que chacun de ces nombres, ou bien faut-il un autre nombre en dehors de celui-là? Platon dit qu'il en faut un autre. Il admet bien que tous ces êtres, ainsi que leurs causes, sont également des nombres. Mais les causes sont des nombres intelligibles. Les autres êtres sont des nombres sensibles. Laissons maintenant les pythagoriciens. Nous pouvons nous en tenir sur leur compte à ce qui précède. Venons à ceux qui reconnaissent les idées comme causes. Remarquons d'abord qu'en cherchant à saisir les causes des êtres qui tombent sous nos sens, ils ont introduit d'autres êtres en nombre égal, comme quelqu'un qui, voulant compter et n'ayant qu'un petit nombre d'objets, croirait l'opération impossible et en augmenterait le nombre pour pouvoir compter. Car le nombre des idées est presque aussi grand ou peu s'en faut que celui des êtres dont ils cherchaient les causes et dont ils sont partis pour arriver aux idées. Chaque chose a son homonyme, non seulement les essences, mais aussi tout ce qui est un dans la multiplicité des êtres, soit parmi les choses sensibles, soit parmi les choses éternelles. Ensuite, de tous les arguments par lesquels on démontre l'existence des idées, aucun n'établit cette existence. La conclusion de quelques-uns n'est pas nécessaire. D'après les autres, il y aurait des idées de choses, même pour lesquelles on n'admet pas qu'il y en ait. En effet, d'après les considérations tirées de la science, il y aura des idées de tous les objets dont il y a science, d'après l'argument de l'unité dans la multiplicité. Il y en aura même des négations. Et, en tant qu'on pense à ce qui a péri, il y aura des idées des objets qui ont péri, car nous pouvons nous en faire une image. D'ailleurs, les raisonnements les plus rigoureux conduisent soit à admettre des idées de ce qui est relatif, or, on n'admet pas même que le relatif soit un genre en soi, ou bien à l'hypothèse du troisième homme. Enfin, la démonstration des idées détruit ce que les partisans des idées ont plus à cœur d'établir que l'existence même des idées. Car il en résulte que ce n'est plus la dyade qui est première, mais le nombre, que le relatif est antérieur à l'être en soi, et toutes les contradictions avec leurs propres principes dans lesquels sont tombés les partisans de la doctrine des idées. De plus, d'après l'hypothèse de l'existence des idées, il y aura des idées non seulement des essences, mais de beaucoup d'autres choses, car il y a unité de pensée, non seulement par rapport à l'essence, mais encore par rapport à toute espèce d'être. Les sciences ne portent pas uniquement sur l'essence, elles portent aussi sur d'autres choses et mille autres conséquences de ce genre. Mais d'un autre côté, il est nécessaire, et cela résulte même des opinions reçues sur les idées, il est nécessaire, s'il y a participation des êtres avec les idées, qu'il y ait des idées seulement des essences, car ce n'est point par l'accident qu'il y a participation avec elles. Il ne doit y avoir participation d'un être avec les idées qu'en tant que cet être n'est pas l'attribut d'un sujet. Ainsi, si une chose participait du double en soi, elle participerait en même temps de l'éternité, mais ce ne serait que par accident, car c'est accidentellement que le double est éternel. Donc, il n'y a d'idée que de l'essence. Idée signifie donc essence, et dans ce monde et dans le monde des idées. Autrement, que signifierait cette proposition, l'unité dans la pluralité est quelque chose en dehors des objets sensibles. Et si les idées sont du même genre que les choses qui en participent, il y aura entre les idées et ces choses quelques rapports communs. Car, pourquoi y aurait-il entre les dyades périssables et les dyades qui sont plusieurs aussi, mais éternelles, plutôt qu'en la dyade idéale et la dyade particulière, unité et identité du caractère constitutif de la dyade. S'il n'y a pas communauté de genre, il n'y aura de commun que le nom. Ce sera comme si l'on donnait le nom d'homme à Callias et à un morceau de bois, sans avoir remarqué aucun rapport entre eux. Une des plus grandes difficultés à résoudre, ce serait de montrer à quoi servent les idées aux êtres sensibles éternels, ou à ceux qui naissent et périssent, car elles ne sont point pour eux cause de mouvement ni d'aucun changement. Elles ne sont d'aucun secours pour la connaissance des autres êtres, car elles n'en sont point l'essence, sinon elles seraient en eux. Elles ne sont point non plus leur cause d'existence, puisqu'elles ne se trouvent pas dans les objets qui participent des idées. Peut-être dira-t-on qu'elles sont les causes de la même manière que la blanchère est la cause de l'objet blanc auquel elle se mêle. Cette opinion, qui a sa source dans les doctrines d'Anaxagore et qui a été adoptée par Eudoxe et par quelques autres, est vraiment trop mal fondée. Il serait aisé d'entasser contre elle une multitude de difficultés insolubles. D'ailleurs, les autres objets ne peuvent provenir des idées dans aucun des sens où l'on entend ordinairement cette expression. Dire que les idées sont des exemplaires et que les autres choses en participent, c'est se payer de mots vides de sens et faire des métaphores poétiques. Celui qui travaille à son œuvre a-t-il besoin pour cela d'avoir les yeux sur les idées? Il se peut, ou qu'il existe, ou qu'il se produise, un être semblable à un autre, sans avoir été modelé sur cet autre. Ainsi que Socrate existe ou non, il pourrait naître un homme tel que Socrate. Cela n'est pas moins évident, quand même, on admettrait un Socrate éternel. Il y aurait plusieurs modèles du même être, et par suite plusieurs idées. Pour l'homme, par exemple, il y aurait tout à la fois l'animal, le bipède et l'homme en soi. De plus, les idées ne seront point seulement les modèles des êtres sensibles, elles seront encore les modèles d'elles-mêmes. Tel sera le genre en tant que genre d'idées. De sorte que la même chose sera à la fois modèle et copie. Et puis, il est impossible, ce semble, que l'essence soit séparée de ce dont elle est l'essence. Comment, dans ce cas, les idées qui sont l'essence des choses pourraient-elles en être séparées? On nous dit dans le Phédon que les idées sont les causes de l'être et du devenir. Et cependant, même en admettant les idées, les êtres qui en participent ne se produisent pas s'il n'y a pas de moteur. Nous voyons au contraire se produire beaucoup d'objets dont on ne dit pas qu'il y ait des idées, une maison, un anneau. Il est évident alors que les autres choses peuvent être ou devenir par des causes analogues à celles des objets en question. Ensuite, si les idées sont des nombres, comment ces nombres seront-ils causes? Est-ce parce que les êtres sont d'autres nombres? Par exemple, tel nombre l'homme, tel autre Socrate, tel autre Callias. Pourquoi donc les uns sont-ils causes des autres? Car que les uns soient éternels, les autres non, cela n'avancera en rien. Si l'on dit que les objets sensibles ne sont que des rapports de nombre, comme est par exemple une harmonie, il est clair qu'il y aura quelque chose dont ils seront le rapport. Or, ce quelque chose, c'est la matière. Il résulte évidemment de là que les nombres eux-mêmes ne seront plus que des rapports d'objets entre eux. Par exemple, supposons que Callias soit un rapport en nombre de feu, d'eau, de terre et d'air. Alors, l'homme en soi se composera, outre le nombre de certaines substances, alors l'idée nombre, l'homme idéal, que ce soit ou non un nombre déterminé, sera un rapport numérique de certains objets, et non un pur nombre. Et par conséquent, ce n'est pas le nombre qui constituera l'être particulier. Ensuite, de la réunion de plusieurs nombres résulte bien un nombre. Mais comment plusieurs idées peuvent-elles former une seule idée? Si ce ne sont pas les idées elles-mêmes, si ce sont les unités numériques comprises sous les idées qui constituent la somme, et que cette somme soit un nombre dans le genre de la myriade. Quel rôle jouent alors les unités? Si elles sont semblables, il en résulte un grand nombre d'absurdités. Si elles ne sont point semblables, elles ne seront ni toutes les mêmes, ni toutes différentes entre elles. Car en quoi différeraient-elles, n'ayant aucun mode particulier? Ces suppositions ne sont ni raisonnables ni d'accord avec la conception même de l'unité. Ensuite, il faudra nécessairement introduire une autre espèce de nombre, objet de l'arithmétique, et tous ces intermédiaires dont parient quelques philosophes. En quoi consistent ces intermédiaires? De quel principe dérive-t-il ? Pourquoi, enfin, des intermédiaires entre les êtres sensibles et les idées ? De plus, les unités qui entrent dans chaque dyade viendront d'une dyade antérieure. Or, cela est impossible. Ensuite, pourquoi le nombre composé est-il un ? Ce n'est pas tout. Si les unités sont différentes, il fallait s'expliquer comme ceux qui admettent deux ou quatre éléments. Tous, ils donnent pour éléments, non pas ce qu'il y a de commun à tous les êtres, le corps par exemple, mais le feu ou la terre, que le corps soit ou non quelque chose de commun entre les êtres. Ici, au contraire, on fait de l'unité un être composé de parties homogènes, comme l'eau ou le feu. S'il en est ainsi, les nombres ne seront pas des essences. Du reste, il est évident que s'il y a une unité en soi, et si cette unité est principe, l'unité doit se prendre sous plusieurs acceptions. Autrement, il y aurait là une impossibilité. Dans le but de ramener tous les êtres à ces principes, on compose les longueurs de long et de court, d'une sorte de petit et de grand, la surface de large et d'étroit, le corps de profond et de non profond. Mais alors, comment le plan contiendra-t-il la ligne, ou le solide, la ligne et le plan ? Car le large et l'étroit diffèrent, quant au genre, du profond et de son contraire. De même donc que le nombre ne se trouve pas dans ces choses, parce que le plus et le moins diffèrent des principes que nous venons de nommer, il est évident aussi que, de ces diverses espèces, celles qui sont antérieures ne se trouveront point dans celles qui sont postérieures. Et il ne faut pas dire que le profond est une espèce du large, car alors le corps serait une sorte de plan. D'ailleurs, les points, d'où viendront-ils ? Platon combattait l'existence du point comme n'étant qu'une conception géométrique. Il lui donnait le nom de principe de la ligne. Les points sont aussi ces lignes indivisibles dont il parlait souvent. Cependant, il faut que la ligne ait des limites. Et les mêmes raisons qui établissent l'existence de la ligne établissent aussi celle du point. En un mot, quand le propre de la philosophie est de rechercher les causes de phénomènes, c'est cela même qu'on néglige, car on ne dit rien de la cause qui est le principe du changement. Et pour expliquer l'essence des êtres sensibles, on pose d'autres essences. Mais comment les unes sont-elles les essences des autres ? On ne dit là-dessus que de vains mots. Car participer, comme nous l'avons dit plus haut, ne signifie rien. Quant à cette cause qui est, selon nous, le principe de toutes les sciences, ce en vue de quoi agit toute intelligence, toute nature, cette cause que nous rangeons parmi les premiers principes, les idées ne l'atteignent nullement. Mais les mathématiques sont devenues toute la philosophie d'aujourd'hui, bien qu'on dise qu'il ne faut s'en occuper qu'en vue des autres choses. Ensuite, ce que les mathématiciens admettent comme la substance des êtres, on pourrait le regarder comme une substance purement mathématique, comme un attribut, une différence de la substance ou de la matière, plutôt que comme la matière elle-même. Voilà ce qu'est le grand et le petit. C'est à cela que revient aussi cette opinion des physiciens, que le rare et le dense sont les premières différences du sujet. Ce n'est là, en effet, que du plus et du moins. Et pour parler du mouvement, si c'est le plus ou le moins qui le constitue, il est clair que les idées seront en mouvement. Sinon, d'où est venu le mouvement ? Supposer l'immobilité des idées, c'est supprimer toute étude de la nature. Une chose qui semble plus facile à démontrer, c'est que tout est un. Et cependant, cette doctrine n'y parvient pas, car il résulte de l'explication non pas que tout est un, mais que l'unité en soi est tout, si on accorde toutefois qu'elle est tout. Or, cela même, on ne le peut, à moins qu'on ne reconnaisse l'existence du genre universel, ce qui est impossible pour certaines choses. Ensuite, dans ce système, on ne peut expliquer ce qui vient après le nombre, comme les longueurs, les plans, les solides. On ne dit point comment ces choses sont et deviennent, ni quelles sont leurs propriétés. Car ce ne peuvent être des idées, ce ne sont pas des nombres, ni des êtres intermédiaires, ce titre appartient aux êtres mathématiques. Ce ne sont pas non plus des objets périssables. Il faut donc admettre que c'est une quatrième espèce d'être. Enfin, rechercher en masse les éléments des êtres et sans établir de distinction quand le mot « élément » se prend sous tant d'acceptions diverses. C'est se mettre dans l'impossibilité de les trouver, surtout si l'on se pose ainsi la question. Quels sont les éléments constitutifs ? Car on ne peut assurément trouver ainsi les principes de l'action, de la passion, de la direction rectiligne. Si l'on peut trouver les principes, on ne le peut que pour les essences. De sorte que chercher les éléments de tous les êtres ou s'imaginer qu'on les a trouvés, c'est pure folie. Et puis, comment apprendra-t-on les éléments de toute chose ? Évidemment, pour cela, il faudrait ne posséder aucune connaissance antérieure. Celui qui apprend la géométrie a nécessairement des connaissances préalables, mais il ne sait rien d'avance des objets de la géométrie et de ce qu'il s'agit d'apprendre. Les autres sciences sont dans le même cas. Si donc il y a, comme on le prétend, une science de toutes choses, on abordera cette science sans posséder aucune connaissance préalable. Or, toute science s'acquiert à l'aide de connaissances préalables, ou totales ou partielles, soit qu'elle procède par voie de démonstration ou par des définitions. Car il faut connaître par avance et bien connaître les éléments de la définition. De même, pour la science inductive, si, d'un autre côté, la science dont nous parlons était innée en nous, il serait étonnant que l'homme, à son insu, possédât la plus excellente des sciences. Ensuite, comment connaître quels sont les éléments de toutes les choses et comment arriver sur ce point à la certitude, car c'est là encore une difficulté. On discutera sur les véritables éléments comme on discute au sujet de certaines syllabes. Ainsi, les uns disent que la syllabe xa est composée de c, de s et de a. Les autres prétendent qu'il y entre un autre son, distinct de tous ceux qu'on reconnaît comme éléments. Enfin, les choses qui sont perçues par les sens, comment celui qui est dépourvu de la faculté de sentir pourra-t-il les percevoir ? Il devrait cependant, si les idées sont les éléments constitutifs de toute chose, de la même manière que les sons simples sont les éléments des sons composés. Il résulte évidemment de ce qui précède que les recherches de tous les philosophes portent sur les principes que nous avons énumérés dans la physique et qu'il n'y a pas d'autres principes en dehors de ceux-là. Mais ces principes ont été indiqués d'une manière obscure et nous pouvons dire dans un sens qu'on a parlé avant nous de tous ces principes et dans un autre sens qu'on n'a parlé d'aucun. Car la philosophie des premiers temps, jeune encore et à son début, semble bégayer sur toute chose. Empédocle, par exemple, dit que ce qui constitue l'os, c'est la proportion. Or, c'est là un de nos principes, la forme propre, l'essence de chaque objet. Mais il faut que la proportion soit également le principe essentiel de la chair et de tout le reste, ou bien elle n'est principe de rien. C'est donc la proportion qui constitue la chair, l'os et chacun des autres objets. Ce ne sera pas la matière, ce ne seront pas ces éléments d'Empédocle, le feu, la terre, l'eau et l'air. Empédocle se fût nécessairement rendu à ses raisons, si on les lui avait proposées. Mais il n'a pas mis lui-même sa pensée dans tout son jour. Nous nous sommes précédemment expliqués sur cette insuffisance de l'emploi des principes par nos devanciers. Revenons maintenant aux difficultés qu'on peut soulever relativement aux principes eux-mêmes. Ce sera un moyen de faciliter la solution de celles qui pourront se présenter plus tard. Fin du livre premier.